Alors, les questions qu'on s'est posées dans le cadre de la table ronde, c'est comment accompagner les évolutions du métier de professeur de français? Quels sont les besoins et attentes des enseignants membres de vos associations et ou de vos institutions? Hein, je me tourne vers Isabelle qui représente ici la Fondation. Je m'aperçois que je n'ai pas présenté les intervenantes, ce que je vais faire de suite, après les quelques questions que nous serons posées pour lancer le débat. Comment les enseignants conçoivent-ils leur développement professionnel? Et je mets individuel entre parenthèses ici. Quels dispositifs ont déjà été mis en place avec deux exemples et deux témoignages qui seront aussi deux exemples importants au niveau du Québec avec Suzanne Richard, au niveau du Portugal avec Christina Avellino pour l'association portugaise des professeurs de français et avec l'association québécoise des professeurs de français. Puis avec l'association taïwanaise des enseignants de français avec Julia Yang et pour l'association belge. je n'oubliais pas l'association belge des professeurs de français avec de Flandre. Désolée parce qu'il y a 186 associations et fédérations, donc c'est difficile parfois pour moi de mémoriser et de me souvenir de tous les. Alors, avec Raymond Gewert, notre vice-président de la Fédération internationale des professeurs de français. Alors, quels dispositifs donc ont déjà été mis en place dans ces différents pays? Dispositifs associatifs, je pose la question. Dispositifs institutionnels, je pose la question. Dispositifs privés, on peut aussi s'interroger par rapport au développement professionnel versus. Alors, quelles nouvelles compétences transférables, transversales, avons-nous besoin, sont attendues aussi en fonction des évolutions du marché du travail? Pour les professeurs de français, on l'a vu, ça a été très clairement marqué avec l'intervention de Manuela hier matin. Quels sont les besoins et attentes des publics scolaires et universitaires qui, eux aussi, évoluent profondément? On l'a vu avec toutes les questions liées au tournant numérique et les questions liées au français professionnel, à l'employabilité et toutes ces problématiques-là. Alors, on va débuter avec Christina, qui va présenter son intervention et sa réflexion sur le thème. Nous avons une contrainte dans le cadre de cette table ronde, c'est de respecter le temps. Nous sommes nombreux, ce n'est pas facile à gérer et effectivement, le souhait, c'est que chacun puisse s'exprimer et que l'on puisse débattre. Donc, Christina, 8 minutes.
C'est tout. Quelle surprise. Branché. Voilà, très bien. Je suis ravie d'être avec vous parce que c'est le milieu associatif. J'y ai été attachée ces dernières 16 années. Donc j'ai fait 2 mandats de vice-président et 4 mandats de présidente. Et j'ai été très contente de céder le témoin à ma collègue Elisabeth Pich. Donc, mais c'est avec plaisir que je suis là, puisque c'est un petit peu sous les mandats que j'ai fait que la formation s'est mise en place dans notre association. Donc je viens à la fois vous faire part de l'expérience qui a été vécue en vous replaçant donc le cadre disons, de la formation et du développement professionnel au Portugal. Donc je ne parlerai que de la formation continue, puisque je conçois, enfin il me semble que le développement professionnel est avant tout une démarche individuelle qui vise d'une certaine façon à acquérir des connaissances dans des domaines variés. Et donc, à travers l'expérience de l'association, on pourra voir quels sont les domaines que l'on a pu donc mettre en œuvre. Donc, je parlerai d'abord, si vous voulez, de tout le dispositif qui existe, le cadre réglementaire au Portugal, et puis ensuite donc de l'expérience des associations, et puis j'essaierai donc de déboucher sur les obstacles et les perspectives. Donc, comme vous voyez, le cadre légal, ce n'est pas le nombre de lois qui manque, parce qu'effectivement, le développement professionnel est souvent lié à l'évaluation de la prestation professionnelle. Donc, au Portugal, l'évaluation des professeurs a été un processus très polémique. Il y a eu de très grosses manifestations, donc il y a eu toute une série de lois qui se sont succédées en essayant donc de définir un cadre plus consensuel, ce qui explique donc, si vous voulez, ce nombre de lois liées à la formation continue et au développement professionnel des professeurs. Donc, les objectifs, c'est ce qu'on trouve en général dans toute la littérature, donc améliorer les compétences professionnelles, acquérir de nouvelles compétences dans d'autres domaines et moderniser le système éducatif. La loi définit donc ces 4 domaines, des domaines de spécialité, bien entendu, en rapport avec le contenu d'enseignement, les sciences de l'éducation, et puis tout ce qui est donc toute la démarche réflexion-action, et aussi donc tout ce qui est formation individuelle, disons qu'au niveau déontologique et socioculturel. Donc, quel est le dispositif qui a été mis en place par la loi ? C'est la création, donc j'ai traduit, enfin j'ai mis accréditation entre guillemets parce que je sais que ce mot en français n'est pas commun. Donc on a créé ce qu'on appelle un conseil scientifique et pédagogique de formation continue, donc en 1992, qui est chargé donc de donner l'agrément donc aux institutions de formation, aux projets de formation et aux formateurs. Et ensuite, donc dans deuxième temps, de faire le suivi donc de la formation continue, donc d'élaborer des rapports et de faire des inspections donc aux diverses institutions. Donc, quelles sont les institutions de formation ? Donc, à partir de 90, toute institution pour faire de la formation devait avoir l'agrément de ce conseil. Donc, il y a évidemment des institutions privées. Il y a des institutions donc de l'enseignement supérieur, il y a des centres de formation des associations des écoles. Donc dès le départ, la loi mettait bien l'accent que la formation devait être centrée sur les besoins de l'école. Donc on a créé le dispositif des centres de formation d'écoles, de groupements d'écoles. Donc par aire géographique, et puis bien entendu aussi tous les centres de formation donc des associations de professeurs reconnus par la loi. Les types de formation ont évolué aussi avec ces changements de loi. Donc de 1993 à 2006, les formations avaient une durée minimum de 15 heures. Il n'y avait absolument aucune obligation de faire de la formation dans son domaine de spécialité au départ, ce qui nous semblait donc qui a été le premier motif donc de contestation de ce genre de dispositif. Et il n'y avait pas d'évaluation quantitative, c'est-à-dire que le professeur qui suivait une formation recevait à la fin une attestation comme quoi il était approuvé ou non approuvé. Et bien entendu que le non approuvé était très grave, donc ça voulait dire que presque tout le monde était approuvé. Et de 2006 à 2013, donc on a défini que 50% des crédits devaient être absolument dans le domaine de spécialité et l'évaluation est devenue donc quantitative avec mention. En 2014, donc vous voyez, cette année encore, ça vient de changer. Donc maintenant, c'est 50% de crédits dans le domaine de spécialité obligatoire, dont 1/5 dans des formations de courte durée, pas forcément disons qu'avec l'agrément. Donc ça veut dire qu'un colloque, un congrès peut entrer dans cette catégorie et l'évaluation continue donc quantitative avec mention. Et aussi il y a dans la loi donc l'ouverture à la formation en ligne hein, qui est proposée. Alors comment financer tout ce dispositif? Parce que là c'est le problème. Parce qu'au Portugal, l'État s'est complètement déchargé de la formation de ses enseignants. Donc il a fallu trouver, si vous voulez, des moyens pour financer. Donc dans un premier temps, il y a eu un financement du Fonds social européen jusqu'en 2000, donc entre 1993 et 2002. Mais il faut vous dire que, disons, les formations, même si le Conseil a été créé en 92, les formations n'ont commencé qu'en 93-94. Et puis ensuite, il y a la formation payante ou gratuite. Et ça, c'est la dernière possibilité que la loi a mise. C'est-à-dire que des professeurs dans ces centres de formation d'école peuvent être déchargés de cours pour faire, disons, des tâches de formation auprès de leurs collègues. Et à ce moment-là, la formation est gratuite pour les enseignants de ce groupement scolaire. Pour les formateurs, donc, il y a, si vous voulez, l'obtention de l'agrément est essentiellement sur CV. Donc, au minimum, si vous voulez, il faut être enseignant, il faut avoir de l'expérience, et puis il faut avoir des diplômes, donc, qui peuvent aller donc, du master au doctorat. Et la rémunération était aussi fixée par la loi au départ, mais étant donné la crise au Portugal, autant vous dire que ce qui a été fixé par la loi n'est plus appliqué depuis longtemps. Parce que ça a élevé, disons que ça donnait un coût trop élevé à la formation. Donc on est en train vraiment de brader un petit peu le prix de la formation pour les professeurs. Hein. Donc en ce qui concerne la PPF, donc, l'association a été créée en 1986. Et dans nos statuts, comme dans tous les statuts de vos associations, je présume, donc, il y a ces éléments qui sont importants donc, pour soutenir les initiatives des collègues et aussi donc, promouvoir leur formation continue. Donc, pour l'historique, si vous voulez, de l'association, donc essentiellement, avant, si vous voulez, la mise en place du dispositif dont je viens de parler, on a essentiellement organisé des journées pédagogiques. Ensuite, 93-94, donc il y a eu la mise en place du centre de formation, donc le processus a mis un certain temps. En 95, donc le centre était finalement l'agrément. Et en 96, donc on a mis en place notre premier plan de formation payant. Donc, on avait 9 cours de formation de 25 heures. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui s'est répété au long du temps. On prévoyait un plan de formation, mais on ne l'a jamais réalisé dans la totalité. Ce qui, vous imaginez, a amené toute une série de travaux pas très agréables à faire d'ordre administratif pour le remboursement, disons, des frais qui venaient donc du Fonds social européen. Donc, en 2002, le financement s'est terminé. Et depuis 2002 jusqu'à maintenant, donc, nous faisons de la formation payante à des tarifs qui ont évolué, qui ont diminué au long du temps. Hein, on fait de la formation de moins en moins chère. Donc, voilà pour vous donner une idée. Donc, comme vous voyez, la formation en fonction des années a beaucoup évolué. Donc, on a eu un très gros pic de formation donc dans les années début des années 2000. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, c'est au moment où il y a eu la reformulation des programmes de français au Portugal. Et donc, l'association a été associée à ce projet. Donc, on a participé à cette reformulation pour les programmes du secondaire, c'est-à-dire à partir de l'équivalent de la seconde en France. Et donc, ensuite, l'association s'est aussi chargée donc, de la formation, la logique de ces nouveaux programmes, ce qui explique donc ces pics de formation. Tandis que si vous voyez la même chose, donc la formation, les cours de formation de 25 heures, ce qui est essentiellement ce que nous faisons, est resté, disons, assez, donc a eu au début un certain engouement. Ensuite, donc, il y a eu une sorte de stagnation. Et puis maintenant, ça remonte et on est en train de redescendre à nouveau. Donc, les besoins de formation, comme vous voyez, ont beaucoup évolué au long des années. Donc, je vais passer une diapo que vous connaissez déjà puisque Elisabeth l'a utilisée. Et là, voilà les domaines de formation que l'on a privilégiés. Alors, vous voyez qu'ici, il y a une grande différence entre les journées pédagogiques qui, pour moi, me semblent le meilleur moyen de faire de la formation. Parce que les cours de formation, c'est vrai que c'est une formation longue et, disons, assez théorique et pratique. Alors que les journées de formation dans les écoles, en général, elles nous sont demandées par les professeurs. Voilà, on veut ça. Et donc, nous, on construit un projet qui correspond, disons, qu'à ce qu'on essaie de correspondre à ce qu'on nous demande. Et donc, vous voyez, les journées pédagogiques, évidemment, le plus grand nombre qu'on en ait fait, c'est lié au programme de FLE. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est lié à l'oral, à l'écrit, aux technologies, hein, on en a parlé hier, hein, qui arrive donc ici en quatrième place. Et là, par contre, si vous voulez, ces dernières années, en termes de cours de formation, c'est ce que, disons, Elisabeth a mentionné, il est vrai qu'en cours de formation, c'est les technologies qui ont, eu le plus grand nombre de formations. Et là, ces dernières années, donc, on a essayé d'ouvrir, et je pense que, aussi bien dans les journées de dans les journées pédagogiques que dans les cours de formation, on a un certain succès. C'est les arts de scène, donc théâtre, chanson et langue. Et donc, c'est un domaine qui est en train donc de prendre. La méthodologie, on continue parfois à avoir des demandes, mais ça reste très résiduel. Hein. Méthodologie, quand je dis méthodologie, ce n'est pas du tout présenter la perspective actionnelle, c'est comment planifier, comment faire dérouler un cours, comment utiliser un document audio, vidéo, toutes ces choses-là. Donc, les obstacles.
Oui,
voilà, je finis. Les obstacles et les perspectives, et puis je finis. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, se pose le problème de l'adéquation, si vous voulez, de nos plans de formation aux réels besoins des professeurs. Il est vrai qu'on a utilisé des enquêtes, on a utilisé beaucoup de moyens. Chaque fois qu'on faisait un congrès, on faisait une enquête pour savoir quels étaient les besoins. Donc, on a construit là-dessus, si vous voulez, nos choix. Les locales et les dates, il est évident que nos formations étaient beaucoup plus fréquentes à Lisbonne, étant donné qu'on avait des locaux à notre disposition. D'autre part, si vous voulez, dans la loi a évolué. Avant, les professeurs pouvaient être dispensés de cours pour faire de la formation. Ce n'est plus le cas. Donc, ils doivent manquer pour faire de la formation. Donc, ça veut dire que nous, on doit faire de la formation le week-end. Hein? Vendredi, samedi. Vendredi, après-midi, samedi. Donc, le problème de la réalisation intégrale, je l'avais déjà signalé. Un autre problème, c'est la constitution d'une bourse nationale de formateurs. C'est vrai que les collègues ne sont pas très disponibles parce que ce n'est pas reconnu dans la carrière d'un prof d'être formateur. C'est terrible, comme le travail associatif n'est pas reconnu non plus. Hein. Donc, et les prix des formations, j'en ai parlé déjà, donc il y a une baisse graduelle des prix. Pour les perspectives, donc il nous semble qu'il y a des voies qui pourraient, disons pour l'avenir, et là pour les collègues qui restent à l'association, je pense qu'on s'est rendu compte que si on articulait les formations avec des projets innovateurs, il y avait, disons, qu'une demande beaucoup plus forte et beaucoup plus, comment dire, on pouvait mieux l'appréhender et répondre à ses besoins. Donc, c'est vrai que le DELF, excusez-moi, il apparaît deux fois par erreur, et la chanson en scène ont été deux projets, si vous voulez. Les SELF, oui, j'ai oublié, c'est une erreur. En ce qui concerne le DELF, les SELF, c'est les sections européennes de langue française, enseignement bilingue. Ça a très, très bien marché. Ensuite, il nous semble aussi que la modalité des journées pédagogiques me semble la meilleure. Le problème, c'est que nous, en tant qu'association, on ne peut pas le faire gratuitement. Et que les écoles ayant un centre de formation qui fait de la formation gratuite, donc on est un petit peu dans une impasse. Et puis, troisième voie, donc construire des partenariats avec d'autres institutions. Donc, on essaie de le faire avec des centres de formation des écoles, des universités. On a lancé le projet l'année dernière d'une université d'été qui a bien marché. Donc, on va essayer de continuer. Et les éditeurs et éventuellement le réseau Alliance Française qui par le passé nous avait beaucoup aidé donc justement à décentraliser la formation. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Christina d'avoir respecté le temps. C'était intéressant de voir effectivement toute l'évolution, la réflexion qu'a eue l'association pour la formation des enseignants et l'intégration effectivement des besoins et la réponse à ces besoins. Alors on va prendre un autre point de vue qui est celui de Suzanne pour le Québec et voir la réponse construite à la fois Suzanne et l'association sur les questions de développement professionnel versus... On va continuer à réfléchir sur cette question.
Alors, merci. Donc, tu ne m'as pas donné de temps, Fabienne, alors... me dire que j'ai tout mon temps.
Non, Suzanne, 8-10 minutes. Maxi?
OK. Alors, à chaque fois que je parle à Fabienne, le temps diminue. Ça commence à 20 minutes. Hier, c'était 15 et là, je suis rendue. Bon, alors, je vais tenter de faire rapidement sans trop vous donner mal au cœur. Donc, je voudrais juste prendre quelques secondes pour remercier la FIPF et puis le comité organisateur de m'avoir invité à venir partager avec vous le développement sur le développement professionnel et les compétences transférable. Donc, je vais vous faire un petit voyage très rapide sur le continent américain ce matin, en espérant ne pas vous donner trop le mal des transports, parce que avec le prédit, parfois, on peut avoir un peu mal au cœur. Donc, juste contextualiser le Québec, que plusieurs connaissent, mais pour être certain qu'on a les mêmes données. Alors, vous savez qu'on est sur un grand continent avec les États-Unis qui comptent environ 320 millions d'habitants qui parlent principalement l'anglais. Et le Québec est une des 10 provinces canadiennes où il y a 35 millions d'habitants qui parlent aussi principalement l'anglais. Donc, bien sûr, il y a des francophones hors Québec, mais ils sont minoritaires dans chacune des 9 autres provinces. Alors qu'au Québec, c'est la province où il y a 7 millions d'habitants et la langue française est la langue nationale. Donc, c'est la langue considéré comme étant la langue première. Le Québec est considéré comme une province unilingue francophone et on doit même avoir des lois pour protéger notre langue. Donc, on a la loi 101 qui, depuis 1977, même si il en reste pas grand-chose depuis quelques années, mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc, on a une loi qui protège le français au Québec. Or, peu d'habitants pour un très grand territoire, le Québec, et donc on est un peu les irréductibles gaulois. Alors, la situation actuelle que je veux brosser avec vous ce matin rapidement va être constituée de trois pôles. Donc, le développement professionnel... il y a trois moments du développement professionnel que je veux présenter ce matin. Alors, d'une part, la formation initiale, l'insertion professionnelle et la formation continue. Alors, le développement professionnel est à trois moments dans la carrière d'un enseignant et ce sont ces trois moments que je veux vous présenter rapidement ce matin. Il y a d'ailleurs un avis du Conseil supérieur de l'éducation chez nous, qui est un organisme paragouvernemental conseil, qui est paru au mois de juin dernier concernant le développement professionnel. Alors, je me base aussi sur les données du Conseil supérieur pour la présentation de ce matin. Alors, la formation initiale chez nous, je vous rappelle encore une fois, on a un système un peu différent pour la scolarité chez nous. Pour enseigner au Québec, il faut obligatoirement passer par l'université. Que ce soit pour enseigner au primaire ou au secondaire, le primaire étant un cycle de 6 ans, donc de la première à sixième année, et le secondaire compte 5 années, donc de la première à la cinquième secondaire. Donc, il y a 11 années de scolarité obligatoire chez nous. Et pour enseigner au primaire ou au secondaire, il faut faire 4 ans d'université. Pour enseigner à l'un ou l'autre des ordres d'enseignement, il faut faire 4 ans d'université. Ces 4 ans comprennent 700 heures de stage. Alors, c'est un programme nouveau qui est en place depuis une dizaine d'années. Là, j'ai plus en mémoire la date exacte parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années, mais chaque étudiant donc qui est à la formation initiale doit faire obligatoirement 700 heures de stage et c'est dès la première année qu'ils partent en stage qui sont des stages d'observation pour commencer jusqu'à une prise en charge complète de presque 3 mois en dernière année d'université. Or, normalement, quand ils arrivent sur le marché du travail, ils sont assez bien préparés à affronter, si je peux dire, les élèves, ce qui n'est pas toujours le cas, mais bon. Dernière petite chose aussi, je veux mentionner que, un peu comme partout ailleurs, au primaire, les enseignants sont donc des généralistes, alors qu'au secondaire, ils sont des spécialistes. Donc, les deux ordres d'enseignement sont bien séparés à l'université parce que les enseignants qui se destinent à l'enseignement du français au secondaire doivent faire des cours de littérature, de linguistique de façon beaucoup plus importante que les enseignants du primaire qui, eux, doivent aussi enseigner la géographie, les mathématiques, etc. Donc, ont plusieurs autres cours. Et il y a un référentiel de 12 compétences à développer qui est mis en place depuis 2001 et qui est travaillé par toutes les universités au Québec. Donc, les étudiants doivent développer 12 compétences pendant leur scolarité. On a aussi l'ordre collégial chez nous, qui est un ordre intermédiaire entre le secondaire et l'université, ou encore pour les étudiants qui font une formation technique. Alors, c'est pas une formation obligatoire, mais c'est une formation pré-universitaire obligatoire. Donc, les étudiants qui veulent aller à l'université doivent passer par le collégial, qui va durer 2 ou 3 ans, selon justement qu'il s'agit d'une une formation technique ou d'une formation pré-universitaire, donc où il s'agit de faire des cours de philo, entre autres, et des cours de littérature. Et pour enseigner donc au collégial, ça prend un minimum de 3 ans d'université, donc un baccalauréat spécialisé, généralement en littérature, parfois en linguistique, mais plus en littérature. Et on n'exige pas la maîtrise, mais c'est souhaitable de faire une maîtrise aussi chez nous. Donc, mais je ne vais pas m'attarder ce matin à l'ordre collégial. Je vais plutôt me concentrer sur le primaire, secondaire, mais je voulais juste rapidement faire état de cet ordre d'enseignement qui existe chez nous. Concernant l'insertion professionnelle, chez nous, il n'y a pas de concours, donc dès que la formation initiale de 4 ans est terminée et réussie, bien entendu, l'étudiant obtient son brevet d'enseignement qui lui donne l'autorisation d'enseigner. Or, cette insertion professionnelle-là, donc c'est le libre marché, hein, donc premier arrivé, premier servi. Souvent, les étudiants vont faire de la suppléance pendant leurs études en 3e, 4e année. Ça leur permet de se faire connaître du milieu et d'obtenir peut-être un poste éventuellement en sortant de l'université. Il y a beaucoup de précarité chez nous, donc qui peut durer 10 ans. Donc la précarité est presque normale, même si c'est anormal. Donc beaucoup de statuts précaires chez nous. La transition s'avère difficile, entre autres parce que la tâche est lourde pour les nouveaux enseignants, donc le syndicat étant très fort, protège les tâches et ce sont donc les enseignants plus expérimentés qui obtiennent les meilleurs postes, les élèves sans difficulté, bon, etc., alors que les nouveaux enseignants arrivent dans le milieu et obtiennent des postes avec un peu des pièces de casse-tête, donc enseignent sur plusieurs niveaux, souvent n'enseignent pas nécessairement le français, même s'ils sont spécialisés en français, donc ils peuvent compléter la tâche avec un cours de géographie ou bon des trucs pour lesquels ils sont pas formés. On leur donne souvent les élèves en difficulté puisque personne veut enseigner à ces élèves-là. Or, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de découragement, d'isolement, d'abandon aussi. On a à peu près partout, là, j'assistais à un colloque, un symposium à Louvain-la-Neuve en mai dernier où il était question de l'insertion professionnelle et où j'entendais des chiffres aussi là aussi élevé que 30% des étudiants ou des nouveaux enseignants qui quittent la profession en Belgique, c'est ce chiffre que j'ai entendu, qui quittent la profession dans les 5 premières années. Chez nous, ça tourne autour de 20% qui quittent la profession dans les 5 premières années. Alors c'est vraiment catastrophique. Malgré les 700 heures de stage, les 4 ans d'université, les nouveaux enseignants quittent la profession dans les 5 premières années à hauteur de 20%. Et finalement, la formation continue. Il n'y a aucune obligation de formation continue chez nous. Pas de mécanisme non plus d'évaluation ou de régulation, donc il n'y a pas d'inspecteur chez nous. Alors, un enseignant peut enseigner pendant 35 ans dans sa classe sans faire de formation continue et il n'est pas trop inquiété, ce qui est assez embêtant, disons, pour être poli. Et il n'y a pas d'incitatif ni reconnaissance non plus, donc il y avait jusqu'à il y a environ 5 à 10 ans, dans la convention collective des enseignants, des incitatifs financiers pour le perfectionnement, mais les dernières conventions collectives, on a aboli ça. Alors tout le monde est pareil, tout le monde est de la même couleur, et qu'on aille se perfectionner ou non, ça compte pas dans la rémunération, ce qui est en tout cas, ahurissant, disons-le, pour des enseignants. Donc, voilà un petit peu brossé rapidement le tableau. Pourtant, là, la loi de l'instruction publique, chez nous, il y a un article qui dit qu'il est du devoir de l'enseignant de prendre des mesures appropriées qui lui permettent d'atteindre et de conserver un haut degré de compétences. Mais personne vérifie ce haut degré. De toute façon, on ne sait pas qu'est-ce que c'est non plus. Alors, on l'a pas défini, on le vérifie pas, et bon, on sait que c'est là, mais on s'inquiète pas trop avec ça. Qui fait la formation continue? Ben, le ministère de l'Éducation. MEL, c'est pour ministère de l'Éducation, des loisirs et du sport. Je le dis en riant. Parce que loisirs et sports ont été ajoutés au ministère de l'Éducation en 2003, si ma mémoire est bonne. Alors, on peut voir un peu l'importance que l'on donne à l'éducation. Les conseillers pédagogiques, qui sont des formateurs engagés dans les commissions scolaires et qui font la formation des enseignants sur le terrain dans les commissions scolaires, donc dans les écoles. Faut savoir aussi qu'il y a 20 journées pédagogiques statutaires chez nous par année. Donc, dans l'horaire des enseignants, il y a 20 journées pédagogiques. Où les conseillers pédagogiques peuvent, je dis bien peuvent, parce que les conseillers pédagogiques, j'ai été 15 ans conseillère pédagogique, donc je peux en parler. Les conseillers pédagogiques n'ont aucun lien d'autorité, et ça c'est heureux, là, avec les profs. Par contre, ben ça a comme effet qu'on ne peut pas les convoquer non plus. Alors, on ne fonctionne que sur invitation. Et même si parfois des journées pédagogiques sont organisées à partir des besoins des enseignants, ben on peut se ramasser avec une salle vide. Ce qui m'est arrivé. Parce qu'ils ont d'autres choses à faire, parce qu'il y a un bulletin à rendre, parce qu'ils ont une réunion, parce qu'ils ont trop de corrections, parce qu'ils sont fatigués. J'exagère à peine. Alors, étant donné qu'il n'y a pas d'obligation, la seule personne qui peut obliger les enseignants à participer à des formations, c'est la direction d'école. Et ça crée des conflits, souvent, avec les directions, entre les directions et les enseignants. Donc, souvent, les directions d'école préfèrent laisser aux enseignants le choix d'y aller ou non. Ce qui est toujours donné comme prétexte à ce libre choix, c'est l'autonomie professionnelle. Donc, on se rabat beaucoup là-dessus, y compris les syndicats. On parle beaucoup de l'autonomie professionnelle, comme si l'autonomie professionnelle voulait dire ne pas se perfectionner. Et les associations, bien entendu, et avant de me faire pousser en bas de l'estrade, je vais terminer là-dessus, même si j'avais plein d'autres choses de préparer, mais c'est pas grave. Donc, les associations, bien entendu, ont un rôle important. L'AQPF, l'Association québécoise des professeurs de français, l'AQEP, qui est l'Association québécoise des enseignants du primaire, Parce qu'il y a une association pour les profs du primaire aussi, qui fait donc de la formation, mais pas juste, qui offre de la formation, mais pas seulement qu'en français. Et la COPS, qui est toute la question d'éthique, donc les technologies, l'application pédagogique là, d'éthique. Alors, ces associations-là travaillent très fort pour offrir de la formation, souvent dans des colloques, des congrès, des journées d'études, mais encore une fois, les enseignants ne sont pas obligés, ça coûte très cher y aller. Il y a peu de budget, il y a énormément de coupures. On est dans une période d'austérité chez nous où il y a des coupures budgétaires comme partout, bien sûr. Or, même les associations sont en difficulté. Je peux parler pour la QPF dont j'étais présidente jusqu'à il y a un mois. J'ai terminé mon mandat. À la QPF, ben notre subvention, on avait une très petite subvention ministérielle qui nous a été enlevée cette année. Et étant donné que pour survivre, on survit avec la subvention, mais aussi avec le congrès, ben c'est un peu un cercle vicieux parce que les enseignants n'ont plus de budget pour venir au congrès. Et étant donné qu'ils n'ont plus de sous pour venir au congrès, ben on a moins d'inscriptions et du coup, ben on fait moins de profit. Or, l'association est vraiment en grande difficulté et il faudra mettre la clé sous la porte d'ici 2 ans maximum à la QPF. Si on trouve pas d'autres sources de financement. Et pour la CEP et pour la COPS, j'imagine que c'est un peu le même problème. Là, toutes les associations sont un peu en difficulté et ne peuvent pas intervenir dans les journées pédagogiques. Là. Donc, et il n'y a pas d'accréditation non plus donnée aux associations. Donc, un enseignant qui vient au congrès de la QPF, par exemple, pour recevoir de la formation, des ateliers de formation qui sont donnés très souvent par des universitaires, par des gens même de l'extérieur qui viennent. Donc, on a un congrès quand même qui a déjà regroupé jusqu'à 900 participants cette année. On n'en avait pas 400. Donc, voilà, je m'arrête sur cette note très positive et lumineuse. Merci.
Merci, Suzanne, d'avoir brossé, effectivement, avec les contraintes imposées au niveau du temps, ce tableau et donné des pistes de réflexion par rapport à des situations où la question de la formation continue, du développement professionnel des enseignants est de plus en plus remis en question. On le voit dans des situations comme le Portugal ou chez vous au Québec. Donc, très problématique. Vas-y, Christina, c'est fait pour ça.
Je voulais juste préciser, parce qu'il y a des choses qu'on... Enfin, le temps étant limité, donc j'ai dû sélectionner ce que je voulais dire. Mais je veux dire, les professeurs au Portugal sont obligés de faire de la formation, c'est-à-dire que chaque année, il faut qu'ils aient au moins un crédit de 25 heures. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que les personnes ont déjà trop de crédits parce qu'il n'y a plus de promotion professionnelle. Voilà. Donc là, on a du mal aussi...
Oui, on se retrouve effectivement face à une absurdité des situations qui font que le développement professionnel n'est même plus pris en considération pour l'évolution de la carrière dans des systèmes où il est normalement obligatoire. Alors, je vais me tourner vers Isabelle. Je vais me tourner par là parce que j'ai juste demandé à Christina de faire un petit mouvement. Isabelle qui ici intervient pour... nom de la Fondation Alliance Française, autre espace professionnel, autre espace d'enseignement de la langue française, hein, dans le cadre de notre réflexion sur la mondialisation, sur les enseignants de français et la mondialisation. Et ce qui intéressait par rapport à l'intervention d'Isabelle, bon, c'est sa réflexion sur les questions liées à la formation, d'enseignants qui ne sont pas dans des systèmes éducatifs et ou universitaires, même si souvent les professeurs des alliances françaises enseignent à la fois dans des systèmes éducatifs et universitaires et dans les alliances françaises souvent. Donc, autre contexte de développement professionnel, d'insertion professionnelle et de formation. Isabelle, pour 8-10 minutes.
Je n'osais le demander. Bonjour tout le monde. Merci, merci Fabienne, merci à la FIPF et merci à mes collègues, mes chers collègues du CIEP d'avoir pensé à moi pour cette intervention. Alors, je vais peut-être commencer par qu'est-ce que c'est que ce métier d'enseignant du troisième type. C'est ce qu'on on les a qualifiés ainsi hier, hein. Ces enseignants de l'Alliance française. Alors pourquoi du troisième type? Parce que déjà les enseignants des alliances françaises travaillent au sein d'un réseau de plus de 800 alliances réparties dans 136 pays. On voit déjà une diversité de contextes d'exercice et il ne sera pas possible pour cette raison, d'évoquer les réglementations et dispositifs existants puisque par essence ils sont différents dans chaque pays. Diversité aussi énorme au niveau même des profils recrutés dans les alliances françaises, qui peuvent dépendre de tout un tas de choses, bien évidemment de l'offre, hein, du marché, parce qu'on parle de marché aussi, ça dépendra aussi de la formation initiale locale, si elle existe. On a vu hier que dans certains pays, il n'y a pas de formation initiale. Ça va dépendre également de la politique des visas appliquée dans les pays, puisque certaines alliances choisissent d'embaucher en partie des enseignants natifs, donc des enseignants français, belges, suisses, québécois, etc. Donc, ce réseau est un petit peu atypique pour l'exercice de la profession, mais je trouve que c'est intéressant. Évidemment, je ne vais pas dire le contraire puisque j'y travaille et que ça me passionne. C'est intéressant aussi parce que c'est un réseau qui représente un certain poids. Quelques chiffres, je ne veux pas vous abrutir avec ça, mais je pense que c'est intéressant. Il y a 8000 enseignants dans le réseau des alliances françaises. Et ces 8000 enseignants ont dispensé l'année dernière 3 millions d'heures de cours de français. Donc voilà, c'est un chiffre qu'on peut avoir en tête. Ils se sont adressés à 500 000 étudiants différents, donc un demi-million d'étudiants étudient dans les alliances françaises, le français. Et puis, pour terminer par un chiffre plus directement économique, le chiffre d'affaires sur les cours de français dans le réseau des alliances françaises en 2013 était de 160 millions d'euros. Voilà, donc c'est intéressant, ça nous donne un petit peu un cadre. Alors, réseaux différents, diversifiés, très divers, mais également au niveau local, diversité. Chaque enseignant travaille dans une structure associative de droit local. Les associations, les alliances françaises sont des associations qui sont dirigées par un conseil d'administration à la tête duquel siège un président élu. Son salarié, le nombre de salariés dans les alliances françaises est également très divers et il peut aller de 1-2 salariés pour les très petites alliances à plus de 200 pour des alliances plus grandes. Donc là aussi, diversité de contexte d'exercice avec des enseignants qui eux-mêmes vont avoir des statuts divers. On va trouver dans des alliances françaises des enseignants qui sont permanents, donc qui auront un statut proche de ce que nous appelons en France un contrat à durée indéterminée. On va trouver beaucoup d'enseignants qui ont un statut de vacataire, qui vont avoir ce qu'on peut appeler chez nous un contrat à durée déterminée, des contrats qui vont être réguliers avec des périodes plus ou moins longues et avec des volumes horaires plus ou moins importants. On va avoir également des enseignants qui seront des prestataires pour l'Alliance française et qui auront un statut d'auto-entrepreneur. Ça a été également signalé hier. Donc, des statuts très divers. Je crois qu'il faut également être bien conscient de cela parce que la diversité d'exercices fait partie des contraintes, mais aussi des avantages de notre réseau. quelques chiffres encore, mais ça donne bien un contexte. La plus grosse alliance d'Amérique du Nord, qui est canadienne, c'est Toronto, emploie 90 enseignants. Ça donne quand même une bonne équipe, hein, ça commence à devenir une sacrée entreprise. Ces 90 enseignants, l'année dernière, ont enseigné 257 000 heures de français. Et ils ont bénéficié de 5 actions de formation. Voilà un contexte. Un autre contexte, en Australie, une alliance qui emploie 12 enseignants, qui ont enseigné 36 000 heures et qui se sont vus proposer 2 actions de formation. Encore un autre contexte, j'ai choisi évidemment des extrêmes à dessein, une alliance d'une petite île d'Océanie qui emploie 7 enseignants, qui ont enseigné 7500 heures de français et qui se sont vus proposer une action de formation l'année dernière. Voilà, des contextes extrêmement divers, hein, dans des structures où l'objectif premier, c'est d'assurer la pérennité de l'emploi, c'est de rester compétitif, c'est de s'adapter au marché, c'est d'être flexible, c'est de générer un chiffre d'affaires pour rester une entreprise. Alors, j'utilise là beaucoup de gros mots. Je parle de marché, entreprise, chiffre d'affaires, compétitivité, c'est notre réalité, c'est le quotidien d'une alliance française, mais comme Manuela le signalait hier, ce sont des mots qu'on a intégrés aujourd'hui, et je voudrais signaler ou rappeler ce dont nous sommes tous conscients, c'est que ce n'est pas parce que nous travaillons sur un marché que nous ne pouvons pas avoir des valeurs, et ces valeurs-là, nous les revendiquons haut et fort. Le métier d'enseignant dans une alliance française a évidemment va faire appel à une diversité incroyable de compétences, et c'est ça qui est chouette, je dirais, dans notre métier, puisque pour reprendre les propos de Guy Le Botterf, les compétences se réalisent dans l'action. Et l'action, Dieu sait qu'on en a tous quand on est enseignant. Alors bien sûr, on attend de tout enseignant dans une alliance française qu'il soit à même de prendre en charge des cours à l'attention d'un public débutant, depuis le public débutant jusqu'à un public de plus haut niveau, souvent niveau C1 dans les alliances, le niveau C2 étant souvent bien difficile à ouvrir. Pour autant, en raison de la demande, en raison des intérêts même, quelquefois privés des enseignants, on peut aussi, un enseignant peut avoir à se spécialiser. Il peut avoir à se spécialiser sur des niveaux de public, il peut avoir à se spécialiser sur des types de public et même sur des contenus de cours. Alors je me suis amusée à faire une espèce de liste à la Prévert qui se veut pas du tout exhaustive des différentes compétences et tâches qu'on peut attribuer aux enseignants dans les alliances. L'enseignant pourra aussi, par exemple, être amené à concevoir de nouveaux produits après une étude de marché à laquelle d'ailleurs il sera peut-être associé. Il pourra prospecter de nouveaux publics, il pourra penser calcul de tarifs, il pourra penser promotion de ces nouveaux produits. L'enseignant pourra aussi prendre la responsabilité d'une équipe de travail sur des projets spécifiques. Il pourra travailler à la conception d'outils pédagogiques. Il pourra travailler à une réponse à des appels d'offres, etc., etc. De manière générale, on voit que la diversité des alliances françaises peut amener l'enseignant à innover, à créer, à s'essayer à de nouvelles tâches qui vont aussi ainsi lui permettre d'acquérir autant de compétences transférables et ainsi maintenir, améliorer même son employabilité. On voit qu'aujourd'hui, le cœur de métier de l'enseignant n'est plus seulement le français langue étrangère. Le métier d'enseignant est décloisonné. Il donne à participer à la vie et à la promotion de l'institution. Et ce sont là autant de compétences transférables qu'il va pouvoir réinvestir. Il prépare ainsi en permanence sa mobilité professionnelle. Et j'ai pas fini, mais je vais faire hyper vite.
Voilà. D'accord.
Donc,
à l'échange.
Ok. Évolution professionnelle, donc qui se met en place grâce à toutes ces compétences. Je vais aller encore plus vite, mais également grâce aux outils que peuvent lui fournir, que peut mettre à sa disposition l'Alliance française dans laquelle ils enseignent. je mélange le pluriel et le singulier, mais ça va pas du tout. Par exemple, les visites de classe sont autant de moments où on fait le point sur ses compétences professionnelles, l'entretien annuel d'évaluation, le plan de formation. Tout cela va permettre de mettre en place une évolution interne, une mobilité interne et peut-être une évolution à l'intérieur de notre réseau même ou une évolution à l'extérieur de notre réseau. Je sais qu'il y a un certain nombre d'entre nous ici qui sont issus du réseau et qui ont migré. La Fondation Alliance Française va avoir à cœur également d'impulser une stratégie de façon à concourir à l'évolution professionnelle et à l'amélioration de la qualité des services dans les Alliances Françaises par la mise en place de son référentiel qualité qui va devenir un vrai cadre de travail et un outil professionnalisant pour les alliances et les enseignants, et par le plan de professionnalisation qu'elle met en place de façon annuelle et qui touche entre 500 et 600 personnes chaque année dans les alliances de notre réseau. Alors, pour terminer, un vieux réflexe d'ancienne directrice de centre de bilan de compétences que je suis, on ne peut pas penser mobilité professionnelle, on ne peut pas penser évolution professionnelle si on ne pense pas bilan de compétences, si on ne pense pas auto-bilan de compétences, je dirais. Donc je crois qu'il est important d'avoir en tête qu'il y a tout un panel d'outils dont nous pouvons nous emparer pour travailler à mettre en place de façon active notre parcours professionnel. Et pour ça, il faut identifier, formaliser, verbaliser, valider les compétences que nous acquérons tout au long de notre parcours. Alors, quelques outils très très rapidement, les référentiels métiers, il y en a tout un tas, Suzanne en a nommé un certain nombre. Il y a le nouveau EPG, European Profiling Grid, qui permet de s'auto-évaluer, et ça c'est quelque chose évidemment de précieux. Il y a les référentiels qualité, qui sont des cadres de qualité qui s'appliquent aux institutions, mais les enseignants peuvent parfaitement s'en emparer pour mesurer leur pratique à l'aune de ces items de qualité attendue. Il y a les normes ISO, la norme ISO 29990 qui vise à la fourniture de services de formation, la norme 29991 qui, elle, vise à spécifier la qualité pour la fourniture de formation en langue. Il y a l'entretien annuel d'évaluation, il y a le portfolio de compétences, qui est quelque chose que nous encourageons les enseignants à laisser toujours ouvert, à toujours verser dans ce portefeuille de compétences les nouveaux acquis, les nouvelles compétences qu'on pense avoir acquises. Il y a le CV à toujours remettre à jour, à toujours tenir à jour. La validation des acquis de l'expérience, qui est une possibilité aujourd'hui même à distance. La formation tout au long de la vie, je vais trop vite, qui permet de gérer, d'anticiper ses besoins en formation, ses perspectives d'évolution. On doit ainsi préparer son évolution professionnelle. Et puis, pour terminer, et même si je suis désolée d'avoir été très, très et trop vite, gérer sa mobilité professionnelle, c'est également veiller à ce que son réseau soit existant et à ce qu'il se développe chaque fois plus. Merci.
Merci beaucoup Isabelle pour ces apports. Absolument désolée par rapport aux trois intervenantes de les avoir pressé comme cela, mais c'était pour laisser maintenant un petit temps. Ne bouge pas, Christina. Pour laisser un petit temps de dialogue avec la salle par rapport à ces trois interventions et par rapport aux questionnements qu'ils ont apportés. On a eu trois contextes très différents, des problématiques où la formation est obligatoire, mais où les systèmes, effectivement, arrivent avec une absurdité, où la formation, effectivement, n'apporte plus de crédit parce que il n'y a plus d'avancement dans la carrière. Système où, au nom de l'autonomie professionnelle, on finalement met en place des je dirais, des actions contre l'évolution et la formation professionnelle continue, puis un réseau où, effectivement, X normes, X situations différentes de l'entreprise privée, avec des mécanismes forts, font que l'enseignant, pour être en adéquation avec le marché, est obligé de revoir constamment son parcours professionnel. Alors, par rapport à ces problématiques-là, qui souhaite intervenir ? On prend, si vous voulez, 5-6 minutes de questions, et puis après, on passe aux autres témoignages.
Moi, en fait, c'était un commentaire que je voulais faire. Je suis dans la même situation que Suzanne, compte tenu que moi, j'ai le volet français langue seconde pour le Québec. J'étais président de l'Association québécoise des enseignants de français langue seconde, et nous, l'arrêt de financement date de bien avant. Alors, ces années de vache maigre-là, on les connaît depuis longtemps. Une stratégie qu'on a utilisée pour s'en sortir, c'est d'aller chercher d'autres publics. Par exemple, depuis 2 ans, on fait des colloques pour l'enseignement en milieu auprès des Premières Nations. Donc, c'est un public qui n'allait pas nécessairement vers nous à l'époque. Également, une autre stratégie qu'on a prise, c'est de s'ouvrir à tout ce qui a rapport à l'enseignement du français et de la francisation aux adultes. Donc, on essaie, dans le fond, de trouver des stratégies pour faire les choses autrement. Et puis, je suis confiant que la QPF ne va pas mettre la clé sous la porte dans 2 ans. Vous avez trop de choses à proposer.
Oui, ben, merci pour ces bons vœux. Oui, on peut ouvrir à d'autres publics, c'est ce qu'on tente aussi à la QPF, mais le problème, c'est que les fonds viennent tous de la même poche. Donc, ça vient du ministère de l'Éducation, peu importe où les enseignants enseignent et s'ils enseignent en francisation, aux Inuits ou peu importe, c'est toujours le ministère de l'Éducation qui finance. Donc, on est pris dans ça. Alors, on a pensé à McDonald's, hein, à aller chercher... c'est une blague, là, je parle de... Pepsi, peut-être, Coke, mais c'est ça, on essaie d'avoir des commanditaires, mais encore une fois, les commanditaires sont très, très, très sollicités, et les commanditaires qu'on peut aller chercher sont des commanditaires qu'on aimerait être près du milieu de l'éducation, mais eux aussi vivent de subventions très souvent. Donc, voilà la situation.
Merci à toutes. C'est une question de générale. À votre avis, comment souhaiteriez-vous évaluer l'enseignant ? Est-ce que c'est par une inspection ? Est-ce que c'est une co-évaluation ? Est-ce que c'est une évaluation des étudiants, du chef d'État ? Quelle est l'évaluation idéale et est-elle nécessaire ?
Qui répond à la question ? Qui répond à la question ?
Parce que vous avez parlé d'évaluation, mais
Non, qui répond rapidement à cette question ? Christina ?
Alors,
et puis Isabelle ?
Alors, si vous voulez, je ne peux pas parler dans l'idéal, étant donné que quand quelqu'un choisit une profession, je pense qu'il a déjà un cadre qui est défini. D'accord ? Donc, je pense qu'au Portugal, si vous voulez, dans le texte, on a un système qui me semble pas mauvais. Dans la pratique, il est évident qu'ensuite, j'aurai beaucoup de critiques. Donc, le professeur, en fait, au Portugal, est évalué dans son école par des collègues et puis par son directeur d'établissement. Donc, en fait, dans les écoles, on a formé des évaluateurs des autres. Donc, il y a eu tout un parcours de formation qui a été fait. Ce qui se passe très souvent, c'est évidemment, il y a le portfolio, il y a un rapport d'auto-évaluation que fait l'enseignant. Et il y a des grilles qui ont été élaborées. Au Portugal, ce qui est arrivé, c'est que chaque école avait sa grille, en gros. Mais sur le même texte loi, on a eu des grilles très, très diverses. Donc, ça n'avait pas de sens. Ce que je veux dire, c'est que, nous, ce que je ressens comme enseignante, enfin, étant à l'association et à la formation, c'est que tous les professeurs veulent avoir excellent. Et lorsqu'on ne fait pas on ne leur donne pas excellent, eh ben c'est tout un problème pour expliquer. Moi, j'ai dû faire, enfin comme je suis consultante du centre de formation, j'ai dû faire des rapports à des collègues pour expliquer pourquoi ils n'ont pas eu excellent et qu'ils ont eu très bien ou bien. Donc on a, si vous voulez, on a aussi une représentation de soi souvent survalorisée. Et c'est vrai que quand on est de l'autre côté, dans un centre de formation, on doit quand même, on ne doit pas dissuader les collègues de faire de la formation, mais comment essayer de maintenir un équilibre qui soit sain, c'est pas facile. Voilà.
Isabelle, puis Suzanne.
Très rapidement, dans le réseau des Alliances françaises, je parlais tout à l'heure d'un référentiel qualité. Et ce référentiel qualité, en fait, préconise un certain nombre de dispositifs d'évaluation. Alors, premièrement, il y a la visite de classe annuelle qui est faite. D'abord, on incite les observations entre pairs. Ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant à mettre en place. Visite de classe annuelle, suivie bien évidemment d'une longue séance de travail avec la possibilité ensuite de mettre en place des actions de remédiation et un plan de formation. Et puis, il y a également, de la part de l'usager de l'Alliance française, une évaluation qui est réalisée sous forme de questionnaire d'évaluation qui va prendre en compte l'intégralité de l'activité de l'Alliance française depuis carrément l'accueil, les locaux, etc., jusqu'à l'aspect plus pédagogique, effectivement.
Et juste pour poursuivre sur ce que Christina a dit, quand elle parle de la représentation de soi et pour l'évaluation, moi, je dirais, il faut travailler aussi la représentation de l'évaluation. Or, ça, c'était dans mon autre partie du prédit que j'ai pas pu présenter, mais il y a une représentation de l'évaluation, en tout cas chez nous, qui est très négative. Et quand j'entends justement pourquoi j'ai pas eu excellent, donc c'est encore cette idée d'une évaluation sommative, hein, qui discrédite plutôt que de mettre l'accent sur la formation, l'amélioration bon, c'est ça, donc de l'amélioration. Et ça, probablement, c'est pour ça que je présentais les trois moments de la carrière, il faut que ça se travaille dès la formation initiale. Il faut, moi j'enseigne en formation initiale à l'Université de Sherbrooke et mes étudiants que j'ai en première année ou en maîtrise, mais c'est sûr qu'en première année de baccalauréat, j'essaie déjà d'instaurer cette idée que la formation initiale, elle est initiale. Elle n'est pas finale et que quand ils sortent après 4 ans, la formation commence. Parce que, comme l'a bien dit Isabelle tout à l'heure, hein, les compétences se développent dans l'action. Or, il faut être capable de réfléchir à son action aussi, de revenir sur cette action, de voir qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Je trouve aberrant qu'il n'y ait pas d'évaluation chez nous des enseignants. Comment ça doit être fait? Bien sûr, il faut se pencher là-dessus. Ça doit pas être fait n'importe comment, ni par n'importe qui. Il y a déjà 12, un référentiel de 12 compétences qui existent qu'on travaille en formation initiale des maîtres, on a là, il me semble, un terreau, en tout cas, intéressant pour travailler la formation continue. Alors, pourquoi ne pas poursuivre l'évaluation à partir de ces 12 compétences professionnelles qui ont été développées en formation initiale? On pourrait revenir sur certaines d'entre elles ou toutes ces compétences par les pairs, par la direction d'école, les conseillers pédagogiques. Il y a quand même des gens là qui sont là, qui connaissent bien la profession et par le portfolio, donc, mais toujours dans une idée de formation, une évaluation formative pour s'améliorer. Il me semble un peu absurde que des enseignants qui passent leur journée à évaluer des élèves ne soient pas eux-mêmes évalués.
Merci beaucoup pour cette intervention. On prend une dernière question. Dernière question, Caroline.
Oui, bonjour, Caroline Nathalie, l'Alliance française de Paris.
J'avais juste deux petites remarques très courtes, deux commentaires, parce que je ne peux pas m'empêcher de les faire après tout ce que j'ai entendu d'intéressant. C'est la première remarque que je voulais faire, c'est que je pense que quand on se pose la question de l'évaluation, l'auto-évaluation du professeur et cette pratique et la pratique réflexive, pardon, j'ai fait tomber mes papiers, ça va pour nous de pair. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un professeur soit toujours évalué par des pairs ou par un regard extérieur s'il n'est pas lui-même capable et s'il n'a pas envie lui-même de savoir où il en est. Donc Isabelle mentionner la grille européenne, hein, European Profiling Grid, qui peut être un outil. Et évidemment, dès la formation initiale, je pense que l'auto-évaluation du professeur, c'est la garantie que, voilà, qui va s'approprier lui-même et avoir un regard toujours réflexif en continu sur sa pratique. La deuxième remarque que je voulais faire, c'était concernant ce qu'on entend des interventions sur les différents contextes, et quels que soient les contextes finalement d'enseignement, quelles que soient les contraintes qui pèsent sur la formation continue, c'est finalement le savoir apprendre du professeur. On parle du savoir apprendre pour l'élève, mais le savoir apprendre du professeur et cette autonomie dans son développement professionnel qui va finalement être la garantie, qui va faire la différence entre un professeur qui avance et un professeur voilà, qui se développe professionnellement tout au long de son parcours et un professeur qui, comme on en rencontre malheureusement, qui reste figé parce qu'il n'a pas reçu l'incitation, la prise en compte de telle action de formation continue. Et on sait qu'avec les contraintes budgétaires, voilà, on ne va pas forcément vers la formation continue qui va prendre en compte forcément toujours dans l'évolution professionnelle. Donc ce savoir apprendre et cette envie d'apprendre aussi, cette appétence pour l'apprendre, là aussi, si on ne le met pas comme un facteur essentiel du développement professionnel et personnel, parce que ça se tient quand même pas mal, hein, parce que le travail, ça ne fait pas quand même partie, c'est notre vie pendant un bon moment de de notre passage sur Terre. Donc ce savoir apprendre et cette envie d'apprendre, voilà, c'est la deuxième remarque. Et j'avais quand même une petite question, s'il y a encore le temps, c'est que quand même je me posais la question, puisque je crois que c'est vous, Christina, qui avez mentionné les dispositifs de formation à distance comme faisant partie récemment de la formation continue des profs au Portugal. Et alors, on voit autour de nous beaucoup, de plus en plus de professeurs, et c'est assez exponentiel comme développement, de professeurs qui participent à des MOOC. Hein? On en voit beaucoup. Et donc, la question qu'on se pose, enfin, on se la pose aussi à l'alliance de...
Des clottes.
Des clottes, pardon. Pardon, ouais, j'ai encore du mal. Je sais pas, clotte, c'est pas la même sonorité aussi.
Clotte, faut pas dire ça.
Donc ça fait un peu ploc, ouais. Mais je vais essayer. Donc les clottes, donc ça se développe. Nos collègues y participent et ils nous demandent, oui, mais bien sûr qu'ils y participent de façon très, enthousiaste. Ils forment même des petits groupes pour y participer. Mais quelle réflexion on a par rapport à cette participation de plus en plus forte, mais à titre individuel des professeurs, et donc comment on reconnaît et comment on prend en compte le développement de tous ces dispositifs collaboratifs de formation entre pairs, souvent avec quelques experts bien sûr, comment on la prend en compte dans la formation continue, comment on la prend en compte comme une nouvelle modalité qui va évidemment se développer énormément, en particulier pour les clottes destinées au... Enfin, qui concernent le numérique, mais d'autres. J'imagine qu'on va en voir fleurir beaucoup d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on...
Mais merci, Caroline, par rapport... Christina.
Moi, ce que je vous ai présenté, donc tout le dispositif existant, au Portugal, c'est simple. Que ce soit en présence ou à distance, il faut que ça fasse le même circuit. Donc, il faut présenter le projet à ce conseil. Ce conseil qu'on donne l'agrément ou pas, et puis ensuite on le met sur le marché et les gens s'inscrivent, voilà. Et puis ensuite il doit y avoir donc un conseil, les formateurs doivent répondre à un certain nombre de critères et puis ils font leur rapport. Moi je dois dire que j'ai beaucoup de mal parce que je pense que dans la formation en présence il y a une dimension qui me paraît absolument... Oui, le ministère, en fait, pour des questions de coûts, utilise beaucoup les plateformes. Par exemple, chaque fois, maintenant qu'il y a de nouveaux programmes, ces formations pour les professeurs se font en ligne.
D'accord. On voit bien les questionnements qui se posent, hein, sur sur l'éclatement des dispositifs de formation continue structurée, hein, tels qu'on les connaissait, et l'évolution, comment on intègre la question du développement professionnel au sein de la réflexion que nous avions sur la formation continue des enseignants. Ça oblige effectivement à repenser ce type de compétences et à repenser les parcours de formation. Alors, si vous voulez bien, on va se serrer et passer la parole à deux autres réflexions, deux autres contextes. On va décaler de toute façon, on va prendre 10 minutes sur la pause, puisqu'on a démarré 10 minutes plus tard. Alors, Julia et Raymond qui nous rejoignent.
J'ai une très bonne place à côté d'Isabelle.
Voilà, excellente place à côté d'Isabelle. Donc, Julia, qui est la présidente de l'Association des professeurs de français de Taïwan. Merci, Julia.
Merci beaucoup.
Merci. Bonjour à tous. D'abord, avant de commencer, je vais dire un remerciement à la FIPF et puis surtout à Fabienne et M. Cuc. Voilà. Voilà, moi, c'est la première fois que je viens au CIEP pour ce genre de séminaire. Je suis déjà venue pour la première fois, c'était pour l'organisation du BELC. Là, cette fois-ci, c'est la deuxième fois, c'est grâce à Fabienne. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du développement professionnel, compétences transférables concernant les enseignants de français langue étrangère à Taïwan. Mais avant de commencer, je pense que je vais vous faire connaître un peu Taïwan, puisque parmi vous, très peu de gens connaissent Taïwan, donc j'en profite. Donc ça prend une ou deux minutes avant d'aller à la formation continue. Ensuite, alors je fais un état des lieux du français à Taïwan. Donc à Taïwan, il y a seulement 7 département français, donc 5 dans le nord, et puis 1 dans le centre, la dernière dans le sud. Alors, si on parle des apprenants, combien de personnes qui apprennent le français? Si on compte les 7 départements de français des universités, environ 4500. Dans les lycées, on commence à apprendre le français à partir du 6e, environ 7280. Et là, si on veut continuer le français, on peut continuer encore pour un an, c'est en 5e. Donc cette année, il y a à peu près 69 personnes. Et bien sûr, les cours optionnels dans les universités, à Taïwan, il y a environ une trentaine d'universités où il y a des cours de français. Il y a de l'eau. Non, il y a de l'eau. Merci. Voilà. Donc environ 10 000 personnes. Et dans les centre de langue privée, là, on ne peut pas connaître le chiffre. Donc, environ 20 000 personnes qui apprennent le français. À Taïwan, il y a à peu près 160 universités. Voilà. Pour les enseignants, environ 200 personnes. Hein. Donc, on a à peu près 23 millions. Hein. Donc, 200 personnes professeurs qui enseignent le français, c'est déjà pas mal. Hein. Là, ce que je vais dire, à Taïwan, on peut commencer à apprendre la première langue étrangère, c'est l'anglais. Hein. Et si on va continuer à apprendre d'autres langues étrangères, ce sera le japonais, le français, l'espagnol, l'allemand, le russe. Maintenant, il y a aussi le vietnamien, le thaï. Et le français se trouve quand même dans la troisième position. Le français se porte très, très bien à Taïwan. Et pourquoi? Parce que les français, ou bien le français, pour nous, c'est très romantique. Voilà, ça, c'est la seule raison. Ensuite, là, je vous parle un peu des professeurs. Ça, c'est aussi dans mon cas. Les études de formation d'un enseignant taïwanais de français. C'est un cas très courant. C'est-à-dire, on apprend l'anglais comme première langue étrangère à partir de 13 ans, de 13 ans à 18 ans. Ensuite, si on va continuer le français, ce sera l'université. On peut avoir une licence de français. Ensuite, si on va continuer à poursuivre le français à l'étranger, ce sera en France ou bien en Belgique, au Canada, etc. Et à 32 ans, on obtient le doctorat. Alors, là, à ce moment-là, on est engagé à une université, c'est-à-dire on peut travailler comme professeur à plein temps. Voilà. Ça, c'est aussi mon karma. J'ai fait mes études à Grenoble il y a très longtemps. Voilà. Alors, en tant que professeur de français à l'université, pourquoi il faut se recycler? C'est très important. Franchement, dit le français, pour nous, c'est très difficile, hein, parce qu'on a une langue qui est tout à fait différente du français. Donc, pourquoi se recycler? Pour nous, c'est s'enrichir constamment dans son enseignement, permettre à l'enseignant d'acquérir de nouvelles compétences en français, réactualiser ses connaissances en technologie d'enseignement, se tenir informé de tout ce qui se passe autour de l'enseignement du français, ou se recycler. Ben, il y a quelques centres de formation, bien sûr, en France, au Canada, maintenant à Taïwan. Franchement dit, maintenant, on n'a pas besoin de se déplacer pour venir en France. Parce que, pourquoi? Je vais vous expliquer. Alors là, je parle un peu de mon association. Hein. Notre association a été créée en 1996. Donc, pour l'instant, il y a 90 nos membres. Voilà, tout ça, ce sont les personnes avec qui je travaille ensemble. En ce moment, j'ai une assistante française. Objectif de l'APFT, de notre association, bien sûr, de promouvoir les échanges culturels entre Taïwan et les pays francophones. Deuxièmement, c'est renforcer les recherches et l'enseignement dans les domaines de la langue française, de la littérature et de la culture francophone. Établir les liens de collaboration avec les centres de recherche nationaux et internationaux. Le plus important, bien sûr, c'est encourager et aider les professeurs de français à approfondir et à suivre les stages de formation de formateurs. Ça, c'est l'objectif. Ce sont les objectifs de notre APFT. Alors, notre association organise aussi beaucoup, beaucoup d'activités. Ça, ce sont les activités de cette année, aussi en 2015. Nous organisons des formations pour les assistants de français et aussi des activités pour les étudiants, par exemple, une journée d'immersion en français. Un festival de chansons, un festival interuniversitaire de théâtre et aussi un festival de court-métrage. Tout ça, ce sont pour les étudiants. Pour les professeurs, on organise aussi un séminaire partage des expériences pédagogiques. Là, l'année dernière, c'était la première édition. On a eu beaucoup de succès. Donc, on va organiser cette année dans une autre ville. Et voilà, la chose la plus importante, c'est le stage de formation continue pour les professeurs. Alors, si je vais vous mentionner des formations continues, on a beaucoup, donc je prends plutôt les quatre dernières années. En 2011, nous avons inventé deux personnes.
Je vais insister sur l'aspect belge régional.
D'accord. Voilà, donc ces deux formateurs sont venus pour parler des techniques théâtrales, chansons françaises. Et en 2012, nous avons invité aussi 4 personnes. Ce sont les thèmes, le cinéma français, les TIS, la phonétique, le français par le jeu et le TELF. Nous avons invité aussi Sylvie Poisson-Canton pour nous parler aussi des emplois, des articles, du passé composé imparfait. Ce sont les deux points grammaticaux qui nous posent beaucoup de problèmes. Voilà, donc là on arrive à cette formation qui est très très importante pour nous et qui a eu beaucoup de succès. Hein. C'est du belge régional en 2013 et 2014. Là, j'ai fait deux brochures. Je vais vous faire circuler, si vous pouvez regarder un peu là. Voilà. Alors, si on compare un peu les chiffres et les formatrices, en 2013, il y a 45 enseignants. 2014, 42. Mais ça a élargi un peu. Il y a d'autres personnes qui ont participé. Alors, pour les formatrices, voilà, ce sont des formatrices qui sont extraordinaires, qui nous ont vraiment bien formés pendant 5 jours. Alors, voici les thèmes choisis aussi par les professeurs. Donc, nous avons trouvé des thèmes similaires aussi. Voilà, l'objectif de la formation pour nous sont tout d'abord d'améliorer la pédagogie des enseignants ainsi que d'ouvrir à des champs nouveaux. Il s'agit également de renforcer les compétences en FLE, mais aussi de faire réfléchir les enseignants à leurs pratiques d'enseignement. Deuxième objectif, c'est permettre aussi aux personnes qui y assistent de créer des liens qui pourront mener à des projets de coopération futurs. Voilà, voici ma conclusion. C'est-à-dire pourquoi il faut avoir des formations continues, parce que c'est pour se recycler périodiquement suivant ses besoins et les occasions d'apprentissage. Alors là, vraiment, l'année prochaine, nous allons accueillir encore la 3e édition du BELC. Voilà, ça va, j'ai fini.
Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Julia. Désolée pour ces contraintes au niveau du temps, mais il nous paraissait intéressant de voir aussi une autre démarche de formation continue, de développement professionnel, dans un autre contexte qui est celui, effectivement, de Taïwan et de toute la dimension régionale que ça comporte, hein. Alors, on va donner la parole à notre vice-président, Raymond Geffert, pour la Belgique et surtout pour toute l'expérience liée à la formation continue qu'ils ont développée au sein de leur association. Merci Raymond et désolé par avance des contraintes liées au temps.
Ça s'appelle format comme CIEP. Alors pendant
on a eu l'autorisation d'avoir une dizaine de minutes supplémentaires puisqu'on a commencé en retard. Je me tourne vers Jean-François, le gardien du temps.
C'est la première fois de ma vie que je vais jouer le rôle de Pousse Café. Et je vous ferai remarquer aussi que dans la construction d'une table ronde, il y avait quand même une recherche d'exotisme, puisqu'on a invité un homme. Et en plus de ça, on a pris un Belge. Alors, ce que je voudrais vous raconter assez brièvement, c'est le résultat de toute une aventure qui n'est pas encore terminée, heureusement, et qui continuera encore au minimum jusqu'en 2017. Et puis, par après, on verra bien. Je ne vais pas vous faire toute l'historique de la formation initiale et suivie et continue en Belgique, mais sachez que la Belgique est terre de surréalisme et que ça explique pas mal de choses. Nous sommes un pays constitué en trois communautés. Nous sommes 11 millions. Hein. Il y a trois communautés. Une communauté flamande qui est la plus importante, qui fait à peu près 65% de la population. Une communauté française qui fait grosso modo 35. Et puis une communauté germanophone qui compte 250 000 personnes. Mais les trois langues sont des langues nationales. Tout ce qui concerne la formation initiale est réservé pour les instituteurs et pour les professeurs de collège. Je traduis en termes français, parce que chez nous, nous utilisons encore bien sûr d'autres termes. Alors, si d'aventure, il devait m'échapper dans le cours de cette course, les termes 90 et 70, sachez qu'il ne s'agit pas de gros mots, mais de l'équivalent de 90 et de 70. En général, je les emploie aussi dans l'autre ordre. Donc tout ce qui est formation initiale pour les instituteurs et les professeurs des écoles et les professeurs de collège appartient au domaine de ce que nous appelons chez nous des hautes écoles, qui sont à peu près l'équivalent des IUFM. Et les professeurs de lycée, ceux-là, ils sont formés, ou on essaye quand même de les former dans les centres universitaires, dans les départements de formation de maîtres qui sont rattachés aux facultés de lettres ou de sciences ou de mathématiques, etc. En 91 est sortie une loi qui a complètement modifié le paysage de la formation et de la formation initiale et continue et du fonctionnement des écoles, à savoir une loi qui instituait l'obligation d'atteindre des niveaux de qualité. Tout à l'heure, Isabelle a employé le terme de ISO, ça, c'est ce qu'on a introduit chez nous aussi pour l'enseignement secondaire et primaire. Mais ne me demandez plus quel numéro d'ISO, je les ai oubliés, vu mon grand âge, c'est assez compréhensible. Pour mesurer cette qualité, on a créé deux corps de statut équivalent, mais avec fonctions tout à fait différentes, un corps d'inspecteur qui a essentiellement pour but de faire des audits. Des audits pour voir si l'école réalise les objectifs finaux qui sont déterminés par la loi pour chacune des matières et pour voir aussi si les professeurs répondent aux normes de qualité. Alors, ces inspecteurs ont très vite reçu le surnom dans le langage des professeurs de pyromanes. Et s'il y a des pyromanes, automatiquement, il faut des pompiers. Et les pompiers, ce sont les conseillers pédagogiques qui ont le même statut que les inspecteurs, mais qui font un travail tout à fait différent, qui est un travail de formation, de soutien, de préparation aux audits, de suivi des audits. Et ce métier-là, ben, je l'ai exercé pendant 20 ans, tout en étant aussi dans la formation à l'université. Voilà. Je vais vous parler d'un projet qui a maintenant atteint l'âge de 14 ans, donc est en pleine puberté, et qui, c'est une belle puberté, et qui a été, dont l'association dont j'ai le plaisir et l'honneur, le privilège aussi, de pouvoir être le président depuis à peu près maintenant 12 ans. Je vais terminer mon mandat en 2017. Dont l'association a pris l'initiative. Partant du point de vue, du constat plutôt, que si les écoles doivent répondre à des normes de qualité et que les instituts de formation sont tenus aussi par la loi de proposer des circuits de formation continue, la plupart de ces écoles, pour des raisons financières et des raisons politiques qui ne sont pas très difficiles à comprendre, ont choisi de mettre l'accent dans leur parcours de formation continue sur les sciences, les maths, l'économie, les technologies, etc. Partant du point de vue que les Belges étant déjà par nature plurilingues, pour les langues, c'était quand même pas de première nécessité, ce qui voulait dire qu'on connaissait très mal le terrain. Et deuxièmement, le français étant première langue obligatoire, en Flandre, se trouve toujours dans une position de combat. Nous sommes la langue de l'adversaire et on doit essayer de vendre et de défendre une image de la langue qui n'est pas celle du dominant ni du dominateur, mais une langue d'ouverture. Je ne vais pas aller plus loin, ce n'est pas à vous que je dois faire le panégyrique du français. Ça entraîne comme conséquence que les écoles, en fait, se sont retrouvées dans une forme d'archipel. Et si les écoles recevaient et reçoivent encore, et ça depuis 20 ans, pour le même montant, 100 euros de crédit de formation pour chaque prof, c'était à elles de se débrouiller pour solliciter le marché, pour trouver les formations, et l'obligation aux professeurs d'avoir et de suivre des formations. Or, l'esquisse que je viens de dessiner vous fait comprendre que c'était un peu, je ne dirais pas du n'importe quoi, mais que c'était pas très structuré, que c'était pas très cohérent, que c'était preuve un peu belge. Et sachant que le prof est un être, à ma connaissance, qui est le seul artiste, c'est un artiste, un prof, c'est le seul artiste qui a pour obligation de se produire simultanément devant 7 publics différents en permanence, à savoir ses élèves, les copains des élèves, les parents des élèves, les collègues, la direction, l'inspection et la société qui n'arrêtent pas de le tenir à l'œil et qui n'arrêtent pas de le juger, de le mesurer et de le critiquer. Par conséquent, il y a chez les profs aussi un réflexe de repli. Et on développe des stratégies de crainte, parfois même de peur et d'une certaine forme de paranoïa. Par conséquent, ce que l'association a tenté, c'est de créer une dynamique permettant de sortir le prof de cet isolement, sachant aussi qu'à l'intérieur des écoles, même pour les professeurs de la même matière, on se trouvait très souvent dans une situation que j'appellerais celle de l'archipel. Chaque prof est une île, et entre les îles, il y a très peu de ferries, il y a très peu de ponts, et qu'il fallait donc essayer de contribuer à la création de ce qu'on a appelé hier, et que j'aime, un nom que j'adore, cette espèce de compagnonnage permettant de développer des réseaux internes et externes de qualité. Alors ça nous a amené, j'espère que ce truc marche, voilà, à partir d'une série de constatations que l'association a faites, entre parenthèses, question d'être un peu chauvin pour mon assos, nous sommes une des seules associations au monde à ne pas avoir de subvention. Nous vivons sur nos fonds propres, sur les fonds que nous trouvons, sur les activités, sur les produits que nous vendons, mais nous n'avons jamais sollicité et nous n'avons jamais reçu non plus de subvention de qui que ce soit des Français ou du ministère. Ce qui nous a aussi forcé à très vite analyser ce que c'était qu'un marché et comment faire pour faire fonctionner une assoce sans moyens extérieurs. Première chose qu'on a constatée, alors que nous organisons par année 4 journées, ce que nous appelons des journées d'études, vous appelez ça des journées de formation, 4 journées d'études en 4 villes différentes entre la période de novembre et de fin mars, et ça rassemble grosso modo chaque année entre 1000 et 1100 professeurs. Il faut savoir qu'il y a 6000 professeurs de français langue étrangère, pour le secondaire en Flandre. Donc c'est pas trop mal, c'est pas suffisant, mais c'est déjà quand même pas trop mal. Surtout que nous pratiquons des tarifs quand même très, très concurrentiels. Mais ce qu'on avait constaté, malgré ces 4 journées de formation, où on présente en moyenne par journée, une moyenne de 25 ateliers, donc sur l'ensemble, pour les 4 journées, ça fait plus d'une centaine d'ateliers de formation, de minimum 2 heures jusqu'à maximum 6 heures, et les profs choisissent ce qu'ils veulent, mais ils doivent avoir 6 heures à la fin de la journée. On avait constaté que ces activités, ces formations continues, ponctuelles, laissaient en fait très peu d'impact mesurable. C'était une des constatations des audits, c'était une constatation aussi des conseillers pédagogiques, et donc il fallait absolument faire quelque chose à ça, parce que ça avait des conséquences sur la carrière des professeurs, ça avait aussi des conséquences financières. Si les moyens financiers mis à la disposition des écoles n'étaient pas rentabilisés, automatiquement ça voulait dire aussi une réduction de ces crédits et une mise en question de la qualité de l'école. Alors nous avons essayé de travailler, de concevoir, l'initiative, je répète, vient de l'association, de concevoir des formations continues sur le moyen et sur le long terme, en plus des journées de formation, des 4 journées annuelles de formation et des autres activités de formation ponctuelles que nous organisions. Et ça nous a amené à rechercher aussi à structurer l'engagement des écoles, des enseignants. Ça veut dire quoi ? On voulait trouver une structure qui fidélisait, qui en même temps exigeait l'engagement des écoles dans le projet et des participants et professeurs, et que ça pourrait se fidéliser au fil de la formation. Et quatrièmement, travailler à ce que j'esquissais tout à l'heure, travailler à ce besoin, à cette nécessité de ce que nous avons appelé, avec un terme un peu biscornu, un réseau d'expertise délocalisé, c'est-à-dire créer au sein des écoles, au sein des groupements des écoles, des gens qui pouvaient servir de personnes ressources et pouvaient servir à la démultiplication et à la dissémination de ce qu'ils auraient acquis durant cette formation. Sur les autres points, je passe. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans un autre moment. Et nous avons créé ainsi un projet qui va regrouper 13 partenaires. Alors je ne vous dis pas ce que ça demande comme savoir-faire, que nous n'avions pas au départ, mais nous avons acquis dans la négociation, dans le développement de stratégies diplomatiques, puisqu'il, en dehors de la BVLF, l'association, on a eu comme partenaire le ministère de l'Enseignement et de la Formation, qui nous a accordé pour le projet un petit crédit, l'ambassade de France, qui s'est engagée parce que le ministère de l'Éducation s'était engagé, 4 universités flamandes, qui ont toutes des circuits ou des cursus de formation, mais qui ne développaient pratiquement rien sur le long terme au niveau de la formation continue des professeurs de français. Ces universités nous ont accordé un petit crédit de 200 euros par année, mais mettaient à disposition leurs locaux, leurs salles, leur cafétéria, bref, tout ce qui était de la logistique et de temps en temps aussi certains de leurs maîtres de conf. Les 5 réseaux d'enseignement, oui, vous voyez bien, en Belgique, c'est la Belgique, nous avons 5 réseaux d'enseignement qui vivent dans un état d'esprit de concurrence. Donc il a fallu les convaincre de se retrouver dans un projet de synergie. On a trouvé, je ne dirais pas un maître d'œuvre, mais qui, au départ ça devait l'être, mais c'est devenu en fait un complice, le Cavillam Alliance Française, et les écoles participantes. Chaque projet durant 3 ans, ça voulait dire que nous avions par projet, puisque nous formions 2 équipes de 20 professeurs, en moyenne entre 30 et 35 écoles concernées par cette formation, acceptant de libérer leurs professeurs durant les journées de formation. Dans la formation, il y avait un stage de 15 jours qui se déroulait, bien sûr, durant les vacances. On ne va pas sortir les professeurs de l'école, donc ils prenaient ce temps sur leurs vacances. Détail important dans le développement et qui était nécessaire pour avoir, un mécanisme fonctionnant bien, les formateurs étaient à la fois des Français et à la fois des Belges flamands, formateurs de professeurs de français, et nous travaillons et nous continuons à travailler dans un état d'esprit de collaboration intense, à savoir que des formateurs français viennent en Belgique et des formateurs flamands participent à la formation durant le stage, de façon à ce qu'il y ait non seulement une synergie, mais le développement d'un répertoire de compétences et un répertoire de références, que nous parlions la même langue et nous dessinions les mêmes concepts. Alors, les publics cibles, ça je vous en ai déjà parlé. Les objectifs, je ne vais pas tous les énumérer, mais je vais en prendre 3. 1, remise à niveau et approfondissement pédagogique et didactique. Vous pouvez vous imaginer ce que ça couvre. Pensez à ce que mes collègues ont présenté tout à l'heure. La formation d'équipes dynamiques de formateurs et des multiplicateurs sur le plan psychologique, sur le plan psychosocial, c'est un gros travail parce que c'est amener le professeur à accepter qu'il peut être un expert et qu'il a un savoir et un savoir-faire qu'il peut mettre à la disposition de ses collègues dans son école, en dehors de son école et supra les écoles et les régions. Création et mise en commun de ressources et bien sûr un gros travail sur les technologies au service de la formation. Et ça donne quoi ? Ben, ça a donné pour chaque formation qui a duré 2 ans et demi à 3 ans un total de 135 heures de formation. Ce qui est encore plus important pour nous, ce sont les résultats de démultiplication. Là, je vous parle des chiffres que vous allez voir maintenant concernent les 4 premiers programmes Formacom. Chaque programme a eu 135 heures. Alors, en résultat quantifiable, ça donne pour la Flandre et l'étranger, c'est-à-dire la non-Flandre, 288 ateliers de formation, de démultiplication, d'une moyenne de 6 heures chacun. Ça veut dire un gros paquet. Ça veut dire que nous avons créé, au fil de ces années, un réseau de formateurs qui ne sont pratiquement pas payés. Ça a donné en tout 7425 participants à ces ateliers. Et à côté de ça, développement de fiches pédagogiques, d'articles et de ressources. Merci. J'ai débordé, excusez-moi. Je suis prof, je suis un homme, je suis bavard.
Désolé, mais, oui. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les intervenants. Absolument désolé de les avoir pressés de cette manière, mais le débat est lancé. On voit la variété des réponses des associations sur les questions de formation et de développement professionnel. Merci.